Donc, au lieu de prier pour ceux qui sont loin, vous priez pour avoir la charité dans le cœur. Vous pensez à ce que Jésus a dit justement le jeudi saint, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il y a un lien évident entre le commandement de charité fraternelle et l'Eucharistie. Si Jésus a attendu la dernière scène pour dire « Je vous donne un commandement nouveau », je vous demande non seulement de vous aimer autant que vous vous aimez vous-même, ce qui est déjà formidable, mais de vous aimer autant que moi je vous aime, c'est que je vais vous faire une grève de cœur. Comme disait le poète, si tu te sens poussif en amour, fais-toi greffer le cœur de Dieu. Vous n'exagérez pas lorsque vous demandez dans vos communions la grâce de la charité fraternelle. On peut dire que c'est d'ailleurs un thème récurrent de la prédication chrétienne au XXe siècle. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prépare un enfant à sa première communion, on insiste beaucoup là-dessus et c'est très juste. Il y a même peut-être parfois une tendance à ne parler que de cela. Toujours est-il que c'est très important. Jésus vient pour changer notre cœur, pour changer mon cœur de pierre en un cœur de chair. Et le seul jour où le prêtre est invité par la liturgie à faire son homélie sur un sujet particulier, c'est le jeudi saint. Les autres jours, l'Église ne dit pas aux prêtres ce qu'ils doivent dire dans leur homélie. Mais le jeudi saint, il est marqué dans le missel, aujourd'hui, l'homélie se fera sur le mandatum novum, sur le commandement nouveau, après avoir lu et commenté brièvement l'évangile du lèvement des pieds, le prêtre devra parler du commandement de la charité fraternelle, pour bien montrer le lien entre l'Eucharistie et la charité fraternelle. Nos paroisses le montrent bien, qui invitent les chrétiens à déposer leur petite tirelire CCFD le jeudi saint, pour montrer le lien entre le partage du pain eucharistique et le partage du pain matériel. Bon, donc si vous vous sentez pauvre en amour, comme saint Ignace, eh bien vous demandez la grâce de la charité fraternelle. Et puis vous demandez aussi tous les autres fruits de l'Esprit-Saint, notamment l'audace apostolique, la paresia dont parle saint Paul, l'audace de tout dire, l'audace d'annoncer l'Évangile dans toute son intégralité. Vous demandez aussi la force des martyrs pour que, éventuellement, vous ayez le courage d'affronter les moqueries des autres, que vous ayez le courage de surmonter votre respect humain, confère la première lecture de dimanche dernier, où Jérémie s'entend dire par le Seigneur qu'il recevra un visage capable de résister à toutes les moqueries qu'il entendra dans son ministère de prophète. Et si vous vous sentez faible, vous dites avec saint Paul, « J'irai jusqu'à me glorifier de mes faiblesses pour qu'habite en moi la force du Christ. » Nous allons voir maintenant trois pistes où, au lieu de penser que Jésus est devant nous, au lieu de penser qu'il vient à nous, je pense que nous allons vers lui. Car celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit Jésus, demeure en moi, et moi en lui, demeure en moi. C'est-à-dire que l'un des grands fruits de l'Eucharistie, c'est que nous tombions davantage dans les mains de Jésus. Vous savez que saint Paul nous dit 159 fois que nous sommes dans le Christ Jésus, en Christ. On a pris l'habitude de dire comme cela pour faire plaisir à nos frères protestants qui préfèrent ne pas mettre d'article sous prétexte que en grec, il n'y a pas d'article. C'est vraiment un petit détail de rien du tout. Bon, nous sommes dans le Christ, en Christ, c'est-à-dire que nous sommes dans ses mains. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup prier devant le Saint-Sacrement en me servant de cette image que vous avez devant les yeux, une icône qui a été réalisée par sœur Marie-Paul bénédictine dans le couvent français du Mont des Oliviers, le couvent des bénédictines. Au Mont des Oliviers, vous avez deux couvents français, tout en haut, le Carmel du Pater, un couvent français, et puis pas loin, un couvent de bénédictines. Et il y a une religieuse qui a réalisé cette icône représentant saint Jean sur le cœur de Jésus et dans ses mains lors de la dernière scène. C'est un thème très courant de l'iconographie chrétienne. Dans la salle à manger de Trossure, le père Caffarel avait fait mettre une photographie d'une sculpture sur le même sujet. Donc, beaucoup de chrétiens se sont servis de cette petite scène d'évangile pour réaliser ce qui se passe en chacune de nos eucharisties. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous communiez? C'est Jésus qui vous reprend en main, comme Jésus a pris en main saint Jean lors de la dernière scène. Car n'oublions pas que l'Eucharistie, c'est un repas nuptial. Vous entendez souvent les prêtres aujourd'hui présenter la Sainte Hostie en disant, non pas heureux les invités au repas du Seigneur, mais en disant le texte prévu par la liturgie Vatican II, Beati qui vocati sunt ad cena magni, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seulement, quand on a traduit en français les textes prévus par la réforme conciliaire, les experts francophones se sont dit, à juste titre, nos chrétiens de France sont tellement peu cultivés qu'ils vont se demander ce que peut être le festin des noces de l'agneau. Ça se trouve dans l'Apocalypse, mais comment un agneau, il peut célébrer un mariage? Donc ils se sont dit, on va prendre quelque chose de plus simple, heureux les invités au repas du Seigneur. Mais le texte authentique, plus beau, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Car n'oubliez pas que le sacrement de mariage, j'ai encore dit ça dimanche dernier à des couples, votre sacrement de mariage n'est jamais qu'un sacrement. C'est-à-dire le signe d'un mariage beaucoup plus important que le vôtre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que votre mariage est un sacrement. Parce qu'il est le signe du mariage, de l'alliance nuptiale entre le Christ et chacun des membres de son Église. Si vous ne comprenez pas que l'Eucharistie est un repas nuptial, il y a quelque chose de fondamental que vous n'avez pas compris dans l'Eucharistie. Au XIXe siècle, quand les enfants se préparaient à leur première communion, on leur donnait volontiers comme image souvenir une image où on voyait Jésus embrasser le communiant ou la communiante. Quand la petite Thérèse parle de sa première communion, elle dit qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Et certains commentateurs de dire qu'elle avance, elle a cette petite bonne femme, elle a déjà réalisé que le communier, c'était Jésus qui nous embrassait. Mais toutes les petites filles de sa génération auraient pu le dire, c'était tout à fait classique. Et nous avons oublié cet aspect fondamental de notre Eucharistie. Même si vous chantez volontiers « peuple de l'Alliance », que ça veut dire cette alliance? C'est l'alliance nuptiale. Jésus nous embrasse. Lorsque vous prenez la Sainte Hostie dans la main, c'est vous qui tenez Jésus dans la main, mais en fait, c'est lui qui vous embrasse. Viens ici, mon petit père, que je t'embrasse. Alors les hommes ont un petit peu plus de difficultés parce qu'ils ont du mal à se situer du côté de l'épouse. Mais comme dit Jésus à Marcel Van, ce n'est pas parce que tu es garçon que tu dois oublier que ton âme est mon épouse. Malheur aux prêtres et aux religieux qui oublient la dimension nuptiale de leur rapport avec moi. Et c'est vrai. Donc, lorsque vous avez communié, ou bien quand vous vous tenez devant le Saint-Sacrement, laissez-vous tomber dans les mains de Jésus. Je fais ça personnellement depuis très longtemps. Quand je reviens à ma chaise célébrant après avoir donné la communion, je me laisse tomber dans les mains de Jésus comme Saint Jean au cours de la dernière scène. Vous voyez ? Vous êtes peut-être scandalisé lorsque vous voyez un prêtre qui s'assied après avoir communié alors qu'on donne encore la communion. J'expliquais ça pas plus tard que dimanche dernier parce que nous étions plusieurs à concélébrer. J'étais le célébrant principal, j'ai laissé les concélébrants donner la communion à ceux qui étaient là, et puis aussitôt je me suis assis. Et j'ai vu qu'il y avait des gens dans l'assemblée qui sont restés debout aussi longtemps que le Saint-Sacrement soit remis au tabernacle pour bien montrer qu'ils croyaient à la présence réelle. Alors, avant de donner la bénédiction finale, j'ai expliqué que si je m'étais assis, c'est pas parce que j'étais fatigué. Ce l'abbé, il a dû être fatigué, il s'assied, il devrait rester debout aussi longtemps que le Saint-Sacrement est remis au tabernacle. Alors c'est vrai qu'il y a deux façons de faire. Il y a beaucoup de communautés où on reste debout aussi longtemps que le Saint-Sacrement n'est pas remis. C'est très 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 bien. Et quand je suis dans ces communautés-là, je ne manque pas de faire la même chose, bien sûr. Mais la liturgie prévoit que le célébrant s'assoit. Pourquoi ? Mais parce que Jésus il est dans mon cœur. Et la présence de Jésus dans mon cœur, elle est encore plus importante que celle au tabernacle. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Parce que s'il est venu dans mon cœur, c'est pas pour que je... Il est là. Donc je suis tout attentif à sa présence. Bien sûr que je crois à la Sainte Réserve et que je ne vais pas manquer de faire une inclinaison ou une génuflexion devant le tabernacle. Mais quand même, soyez tout attentif au fait qu'il a réalisé le but de l'Eucharistie. Il est venu dans votre cœur. Rejoignez-le là où il est et laissez-vous tomber dans ses bras. Dites à Jésus, Jésus, réalise ta promesse. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, il tombe dans mes bras. D'ailleurs, on a remarqué depuis longtemps que Jésus vous dit ce qu'un époux peut dire à son épouse en se donnant à elle, « Ceci est mon corps livré pour toi ». Toute la tradition des pères de l'Église considère que la communion, c'est une étreinte nuptiale entre Jésus et son épouse. Alors, il vaut mieux quand même que ça ne vous donne pas d'orgasme, sinon vous allez voir votre psychiatre. Non. Vous voyez ? Mais c'est une étreinte nuptiale. Jésus, c'est l'époux qui fait danser son épouse, qui se donne à elle pour la prendre dans ses bras, pour l'étreindre. C'est fondamental. Moi, j'aime beaucoup prier devant le Saint-Sacrement. Je démarre pratiquement toutes mes oraisons comme ça, vous voyez. Je joins les mains et puis je demande à Jésus de me reprendre dans ses mains. En lui chantant une petite ritournelle, éventuellement de Jean-Claude Janada. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, ô Seigneur, je remets ma vie. En tes mains, vois notre misère, notre prière, notre amour, nos désirs. En tes mains, nos jours sans lumière, façonne nos vies en tes mains. Alors c'est une ritournelle, et je crois que Jésus ne me dit pas, « Eh, petit père, tu me l'as déjà chanté hier, tu pourrais peut-être changer la formule. » Non, non, le Seigneur, il aime beaucoup mes ritournelles. Je ne me crois absolument pas obligé de chanter du nouveau. Oh, bien sûr, si j'anime un groupe liturgique, je ne vais pas toujours chanter la même chose, sinon ça va barber les gens. Hein, c'est comme si je faisais la même homélie tous les dimanches. Mais avec le Seigneur, c'est une relation d'amour, c'est comme entre époux. On se dit toujours les mêmes choses. À travers des mots toujours les mêmes, on peut faire passer un amour toujours nouveau. Tâchez de bien comprendre cela. En oraison, il n'est pas nécessaire d'être original. Même moins vous l'êtes, mieux ça vaut. Donc quand vous avez trouvé un truc, un thème, une attitude qui convient, conservez-la jusqu'à la fin de vos jours. Et ne changez que lorsque vous avez besoin d'autre chose. Parce que lui ne se lasse jamais. Regardez le Père, ça fait des siècles qu'il entend qu'on lui dit « Notre Père ». Alors c'est vrai qu'il y a une certaine variation, parce que c'est tantôt en javanais, tantôt en français, tantôt en allemand. Mais c'est quand même toujours la même chose. Il ne se lasse pas. Bon.